Les nuits de France Culture.
On a toujours vu les particules qui sont au fondement même de la matière et de la vie comme parfaitement désincarnées. Les protons, les neutrons et les électrons qui constituent l'atome, ainsi que l'atome lui-même, ne sont jamais décrits comme doués d'intentionnalité ou de mémoire. Ils sont aussi froids, aussi neutres en quelque sorte que se veut la science qui les observe. On sait pourtant, depuis le principe d'indétermination d'Heisenberg en 1927, qu'une observation objective du monde subatomique est impossible. La science n'a comme théorie que celle d'un monde, qu'il soit visible ou microscopique, objectif et dénué d'esprit. C'est exactement l'approche que tente de déconstruire le physicien et philosophe français Jean Charon. Adoptant une approche métaphysique très controversée, Charon construit une théorie selon laquelle les particules ne sont pas de simples éléments physiques, sans réflexivité ni histoire propre. Pour lui, toute particule a deux regards, un de conscience, onde psi, et un de mémoire, onde sigma. Autrement dit, la particule garderait en elle le souvenir de tout ce qu'elle a été, et a une forme de conscience de ses mouvements et de ce qu'elle constitue. Singulier postulat aux conséquences scientifiques et philosophiques immenses, desquels il vient débattre sur le plateau de dialogue avec le père Pierre Leroy, biologiste et compagnon notamment de Teilhard de Chardin. Une émission de Roger Pilaudin, diffusée pour la première fois le 11 avril 1978.
L'esprit, c'est inconnu. L'esprit, c'est inconnu, c'est le titre du dernier ouvrage de Jean Charon, dont nous avons repris le titre pour ce dialogue entre Jean Charon et Pierre Leroy. Jean Charon est physicien et père de la théorie de la relativité complexe, et dans son ouvrage « L'esprit, c'est inconnu », il expose les principales données de cette théorie de la relativité complexe, qui se veut continuation de la relativité restreinte d'Einstein, et peut-être aussi un pont jeté entre l'esprit et la matière, entre la physique et la métaphysique. Son interlocuteur est le père Pierre Leroy, biologiste, qui fut l'un des collaborateurs très proches du père Teilhard de Chardin, sous les auspices duquel peut-être sans doute placé le dialogue de ce soir. Pierre Leroy, c'est en tant que biologiste que vous avez lu le livre de Jean Charon, et vous croyez qu'il va peut-être obliger ceux qui s'intéressent au réel tel qu'il nous apparaît à s'interroger sur la manière de comprendre ce réel et de l'interpréter. Mais certaines notions exprimées par Jean Charon risquent de ne pas paraître orthodoxes à la science officielle. Pierre Leroy.
Je ne suis pas physicien, malheureusement. Je suis biologiste. Et c'est en tant que biologiste que j'ai lu votre livre. Vous m'avez donné certainement des solutions, entrevues, ou moins des solutions à des problèmes qui restent vraiment toujours mystérieux pour le biologiste. Ne serait-ce que l'ordre que l'on trouve dans la vie, ne serait-ce que les phénomènes de régénération, que la construction d'outils organiques ou d'outils externes chez l'animal. C'est très difficile parce qu'il y a là un semblant de raisonnement dont l'animal ne semble pas avoir conscience, mais qu'il construit quand même. Alors votre solution me paraît très importante et très intéressante, et si elle peut être généralisée, je crois que ce serait un acquis considérable. Je crois aussi que le fait d'avoir écrit ce livre va obliger tous ceux qui s'intéressent au réel tel qu'il nous apparaît, de s'interroger sur la manière de comprendre ce réel et de l'interpréter. Il faut que je vous dise aussi quelque chose qui est un petit peu en dehors du sujet, mais qui tout de même me pèse sur la conscience. Je sais que vos livres, ou un de vos livres, a été envoyé dans un pénitencier tout à fait réputé de France, et que ce livre n'a pas été admis. J'ai envoyé à ce prisonnier une Bible, elle est passée, votre livre ne passe pas. Alors je tiens à m'en étonner et à demander vraiment pourquoi, car avec beaucoup d'attention, je n'ai vu aucune espèce de désordre, ni politique, ni moral, ni religieux, ni philosophique, et plutôt un instrument pour penser, non pas un instrument pour se révolter. Alors je ne sais pas, mais je tenais à vous le dire, parce qu'on a besoin de savoir ces choses. Si vous voulez, avant de nous rentrer vraiment dans les discussions, j'aimerais bien que vous nous précisiez quelques points. Vous apportez des termes qui sont très communs chez les physiciens théoriciens, mais qui tout de même, chez moi, me paraissent quelque peu obscurs. Vous parlez de particules élémentaires, qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Vous parlez de théorie unitaire, qu'est-ce que cela veut dire? Vous parlez d'éon. Est-ce que les éons se distinguent des particules élémentaires et pourquoi et comment? Vous parlez de particules élémentaires éternelles, ce qui ne me paraît pas très scientifique. L'éternité, pour le savant, n'a pas de sens. Et cependant, vous l'utilisez. Alors, ce sont ces précisions que j'aimerais bien d'abord avoir, de manière à ce que nous puissions ouvrir le débat d'une manière correcte et sans ambiguïté.
Jean Charon.
Bien, je vais peut-être commencer par les problèmes qui entrent d'ailleurs dans mon domaine de recherche, qui est la physique théorique et ce qu'on appelle théorie unitaire et les particules élémentaires. Bon, chacun sait que la matière est constituée de particules, que grossièrement on peut assimiler, encore que ça ne corresponde pas tout à fait à l'image que se font les scientifiques actuels, que l'on peut considérer comme des briques ou des billes entre lesquelles il y a à peu près du vide et qui constituent donc toute la matière. Les physiciens actuels s'interrogent sur la structure de ces particules, comment sont-elles faites, quelles sont leurs formes, quelles sont leurs propriétés. Les physiciens découvrent chez ces particules un certain nombre de propriétés, il y en a quatre principales. Ce sont les propriétés qui font que ces particules s'attirent, c'est la gravitation, puis les caractéristiques électriques, c'est l'électromagnétisme, et puis d'autres caractéristiques comme les forces nucléaires ou bien la radioactivité, qui est ce qu'on appelle les interactions faibles. Bon, alors ces réactions entre particules actuellement apparaissent comme cloisonnées l'une de l'autre. On les décrit séparément, mais la physique actuelle ne peut pas jeter un pont entre ces forces, entre ces interactions. Alors, une théorie unitaire, eh bien, c'est la recherche d'une grande loi de la nature, une loi de la nature qui parviendrait à contenir, en même temps, toutes ces interactions diverses. Pourquoi une théorie unitaire? Pourquoi est-ce intéressant? C'est avant tout parce que, d'abord, on a plus ou moins, chacun de nous a plus ou moins l'intuition que cet univers est un. Que de le diviser, de le découper, eh bien, on peut le faire parce que ça nous aide à comprendre des choses, mais on soupçonne quand même que tout cela, ça ne forme qu'un tout et que si on pouvait décrire les choses en rétablissant l'unité des phénomènes, eh bien, on trouverait probablement entre ce qui est cloisonné un certain nombre de choses nouvelles, on boucherait des trous, disons, et on pourrait donc tirer de cette nouvelle connaissance des choses spécialement intéressantes.
Oui, si je comprends bien, au fond, les particules élémentaires constitue aussi bien la matière elle-même,
oui,
que l'intérieur de cette matière. Je crois vous avoir lu dans votre livre, et je suis sûr d'avoir lu d'ailleurs, que ces électrons dont vous parlez sont comparables à des bulles de savon, dont on verrait l'extérieur, et à l'intérieur desquelles il y aurait un espace-temps nouveau, différent de la matière.
Oui, alors là, on entre directement dans mes recherches personnelles sur ce sujet, cette recherche de la structure des particules. Et j'ai abordé pour cela une direction de recherche qui n'est pas la direction qui est la plus suivie actuellement. Encore que depuis quelques années, beaucoup de chercheurs reprennent cette direction. C'est la direction qu'avait ouverte Albert Einstein, où il décrivait toutes les particules en termes d'espace et de temps. Cette voie, je l'ai poursuivie. Et c'est ici que nous arrivons, disons, à un certain nombre de concepts qui vont toucher peut-être notre sujet de l'esprit. J'ai attaqué ce problème en physicien, c'est-à-dire que j'ai toujours... Je n'ai pas voulu, disons, aussi systématiquement que le font les physiciens, laisser l'esprit à la porte, parce que vous savez, les physiciens ne veulent pas que l'esprit vienne se mêler à leur recherche sur la matière. L'esprit, c'est quelque chose d'autre. Certainement que je suis probablement plus intéressé, plus orienté que la plupart sur les problèmes métaphysiques. J'étais également influencé par Teilhard, qui nous a dit déjà depuis un certain temps, comme vous le savez, je ne vous l'apprends pas, qu'une certaine psyché élémentaire devait être attachée à la matière dès le niveau des particules.
Assurément, oui.
Mais il n'avait pas dit comment cette psyché, disons, elle pouvait être incorporée. Au départ de mes recherches, ça n'était pas non plus mon intention de préciser, disons, l'idée de Teilhard. Mais il se trouve que les études, les recherches que j'ai menées, en particulier au cours des 2-3 dernières années, m'ont permis de décrire ces particules d'une façon qui était parfaitement satisfaisante sur le plan de la physique pure, mais qui découvrait un aspect assez particulier pour certaines de ces particules, qui sont des particules très connues et très communes, ce sont les électrons. Ces électrons se présentent effectivement comme étant une matière, pour donner une image, disons, une sphère, si vous voulez, une petite sphère, une très petite sphère. Mais la particularité de cette matière, c'est que l'intérieur de cette sphère renferme un espace et un temps qui est différent de celui que nous connaissons.
Et ce que vous appelez espace-temps-esprit.
C'est ça. Pourquoi ? C'est un espace-temps qu'on retrouve dans d'autres phénomènes de la nature, au niveau astrophysique, qui sont ce qu'on appelle les trous noirs. Et j'ai pu dire que le modèle d'électrons que je fournissais, et qui est satisfaisant au point de vue des expériences sur les particules élémentaires, avait l'air de présenter les électrons comme des micro-trous noirs.
C'est ça, oui.
Alors, quel est cet espace et ce temps que l'on trouve à l'intérieur de ces particules ? Eh bien, c'est un espace, dans notre espace, qui est celui de la matière. Vous le savez, en tant que biologiste, vous le savez très bien, toutes les choses se dégradent. L'ordre se dégrade. C'est ce qu'on appelle l'entropie qui est continuellement croissante. Dans l'espace de la matière, si vous laissez un système fonctionner tout seul, disons, il va peu à peu se dégrader jusqu'au moment où véritablement toute la formation, tout l'ordre qu'il contenait va se perdre complètement. Dans cet espace, au contraire, je peux montrer que les choses vont continuellement en s'ordonnant. C'est-à-dire que les informations s'accumulent et ne se perdent jamais. On ne peut avoir qu'un enrichissement des informations qui se stockent dans cet espace.
Et c'est ça que vous appelez esprit ?
Je n'appelle pas ça esprit, je dis, je le constate d'abord. Je constate que c'est quelque chose, l'esprit, c'est quand même quelque chose qui est capable de s'ordonner toujours de plus en plus. Ce que nous montre l'esprit, c'est une de ses caractéristiques, c'est précisément d'aller un petit peu contre l'ordre naturel de la matière, qui est précisément la marche vers le désordre, et au contraire, d'être capable d'ordonner les choses. Là, on est en présence d'un espace qui, précisément, accumule, disons, l'information qu'il reçoit de l'extérieur, mais ne peut pas en perdre. C'est vraiment quelque chose d'aussi impossible, disons, que l'ordre dans l'espace de la matière ne peut que décroître. Restez constant. Là, au contraire, il ne peut que croître. Alors ça, c'est une des choses. Je dois quand même préciser tout de suite la seconde. La seconde, c'est que c'est un... et qui rapproche cet espace d'un espace de l'esprit, c'est que cet espace a un temps cyclique, contrairement au nôtre qui s'écoule en s'écoulant toujours sans jamais revenir sur lui-même. Là, on a un temps cyclique qui a pour conséquence qu'un événement qui a été vécu dans le passé va faire un retour, il va y avoir une sorte de retour du temps, de sorte que dans l'instant présent, vous allez pouvoir avoir dans cet espace une reproduction d'un événement qui avait eu lieu dans le passé. Ça, c'est une caractéristique qui, disons, rapproche cet espace de ce qu'on souhaiterait voir d'un espace de la mémoire. Et ce sont donc essentiellement ces deux caractéristiques qui m'ont conduit à dire un tel espace, qui est un espace qui est un espace-temps différent de celui que nous connaissons, eh bien, est un espace-temps qui semblerait pouvoir représenter d'une façon correcte ce qu'on réclamerait un espace-temps de l'esprit, précisément.
Pierre Leroy ?
Je suis tout de même un peu troublé, malgré tout, malgré ces explications qui sont claires. Je suis un peu troublé pour la raison suivante. C'est que je ne sais pas quelle est l'origine de ces particules élémentaires, ces électrons. Et deuxièmement, je perçois dans le monde non seulement un ordre, mais aussi une durée. Et par conséquent, si les électrons se chargent de mémoire, comme vous le dites, oui, se souviennent d'un élément passé, comment se fait-il qu'ils aient pu se charger de mémoire au tout premier temps de leur existence? De quoi se sont-ils chargés à ce moment-là? En d'autres termes, si vous donnez une origine A à cette particule, d'où vient qu'elle se charge de B, puisqu'il n'y existe qu'elle à ce moment-là?
Jean Charon?
Non, ce que l'on peut dire, ces particules, les électrons, sont ce qu'on appelle des particules stables, c'est-à-dire ont une durée de vie qu'on peut comparer à la durée de vie de l'univers lui-même, si on peut parler d'une durée de vie de l'univers. Vous savez que les théories cosmologiques actuelles font remonter le passé de l'univers, c'est-à-dire la date de création de l'univers. Encore que, là encore, il faudrait préciser ce que l'on entend par commencement de l'univers.
Voilà, c'est ça, c'est
mais
vrai.
On situe ça il y a à peu près 15 milliards d'années dans le passé. Oui, la plupart des électrons ont été créés au début de l'univers. Leur vie, donc, a commencé, et cette vie va se prolonger toute la durée de l'univers.
Qu'est-ce que doit durer l'univers? Je veux bien, mais comment s'enrichissent-elles au point de départ, puisqu'elles sont créées? Qu'est-ce qui va leur permettre, en d'autres termes, d'aller plus loin et d'inventer, comme vous le dites? L'électron invente, et vous avez raison, parce que je crois que c'est vrai, il invente. Mais comment se fait-il qu'il puisse inventer au point de départ? Il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien à ce moment-là.
On a un enfant, si vous voulez. Un enfant naît.
Oui.
Bon, il va s'enrichir tout au long de son existence. Il va s'enrichir précisément parce
qu'il
a l'esprit.
Oui, mais il a tout ce qu'il faut pour s'enrichir. Il a ses parents, il a le milieu extérieur, tout ce que vous voulez.
Oui.
Tandis que là, dans ce début de l'univers, où on voit précisément ces particules élémentaires se dissocier ou s'associer comme on voudra, de quoi se charge-t-elle?
Elle se charge de l'expérience vécue.
Et quelle expérience, après vous?
L'expérience, disons, qu'ont les choses. Dans un univers du commencement du monde,
oui,
il y avait quand même des interactions. Ne serait-ce
bien
que
sûr,
il
oui,
existait l'électricité,
bien
la
sûr,
force gravitationnelle, on peut supposer que
ça
tout ça existait.
Bien.
Vous avez donc des échanges. Il y a aussi, on peut dire qu'il y a une expérience vécue de la matière. Cette expérience vécue se traduit par des informations probablement très minime au départ. C'est un processus d'extrêmement longue durée qui doit s'amorcer extrêmement lentement.
Oui.
Mais on conçoit qu'il peut y avoir quand même quelques informations qui proviennent tout simplement de l'expérience vécue, expérience très sommaire, qui n'a rien à voir évidemment avec l'expérience de l'esprit telle qu'on peut le faire actuellement. Bon. Mais c'est une expérience extrêmement sommaire, extrêmement matérielle, mais si petites que soient ces informations, si elles pénètrent l'électron, il ne les perdra plus.
Yeah,
right. Il ne peut y avoir qu'un accroissement de l'ordre. Enfin, il n'y a jamais des ordres, donc ça peut aller très très doucement. D'ailleurs, si on remonte à 15 milliards d'années dans le passé, ça fait quand même une longue durée.
Oui.
Et il y a une accumulation donc progressive, et avec, au fur et à mesure que le temps s'écoule, création, disons, l'électron, au fur et à mesure qu'il amasse de l'information, il s'enrichit, il devient de plus en plus, comme dirait Teilhard, il devient de plus en plus conscient, disons.
Mm-hmm.
Et à ce moment-là, il n'y a guère moyen d'employer d'autres mots que de dire, peut-être que là, je vais vous faire sauter, Père, mais de dire qu'il va inventer des machines, disons. Qui va se regrouper dans des sociétés.
Ça ne m'étonne pas du tout, ça ne me fait pas bondir.
Oui.
Parce qu'il a fait bien mieux qu'une machine, il a fait la vie.
Pierre Leroy.
Brûlons toutes les étapes, si
brûlons
vous voulez.
Toutes les étapes.
Parce que 15 milliards d'années, c'est un petit peu lointain quand même.
Oui.
En arrivons-en à 3 500 millions d'années.
Oui, c'est à peu
c'est
près
la date à peu près de la première apparition des bactéries.
Oui.
Bon, ça on le sait.
Oui.
C'est une invention extraordinaire.
Oui.
Qui fait que tout de même, ce n'est pas encore un être bien organisé, cependant, il est organisé.
C'est ça.
Avec une complexité énorme, déjà. Ah. Bon. Et ce qui me frappe, étant donné votre théorie, c'est que ces bactéries sont restées stagnantes pendant 1,5 milliard d'années. Elles n'ont pas bougé.
Oui.
Elles ont probablement couvert toute la surface de la Terre, étant donné leur rapidité de développement. Et il a fallu une organisation nouvelle, une autre invention, pour faire sortir les algues bleues. Tout ça sont des anaérobies, par conséquent ça va très bien sans trop d'oxygène. Et puis on ne sait pas pourquoi, arrive le pigment vert qui va pénétrer à la cellule, qui va faire les algues vertes. À partir de ce moment-là, libération de l'oxygène, enrichissement de l'atmosphère, etc. Bien. Quel que soit le processus, ce qui me frappe beaucoup, c'est la stagnation très lente et l'évolution très lente qui se fait sur une période mondiale considérable. 1,5 milliard d'années, tout même ça compte. Et à ce moment-là, il n'y a que des bactéries. Alors, les particules élémentaires, elles piétinent à ce moment-là.
Disons qu'on peut considérer, on peut dire que c'est encore beaucoup plus piétiné au départ, parce que jusque de 15 milliards...
Mais avec cette différence qu'ici, aux 3 milliards d'années, vous avez quelque chose de tout à fait nouveau qui apparaît,
oui,
qui est la vie. Et alors, par conséquent, là, on peut saisir, en effet, qu'il y a une émergence tout à fait nouvelle,
oui,
qui est faite d'éléments antérieurs à tout cela, oui, mais tout de même qui se constitue en une organisation nouvelle.
C'est ça, oui.
Bon, alors, cette organisation nouvelle, là, elle peut enrichir considérablement les particules.
C'est ça,
mais
oui.
Il leur faut du temps pour s'enrichir. 1,5 milliard d'années pour s'enrichir, pour trouver des algues bleues. Puis après ça, pour trouver les eucaryotes.
Oui.
Alors là, c'est assez bouleversant de voir la lenteur avec laquelle ces choses se produisent. Et puis tout d'un coup, il y a à peu près 600 millions d'années en arrière, c'est l'épanouissement magnifique de ramifications multiples de tout genre, aussi bien dans le règne végétal que dans le règne animal.
Oui.
Et ça part en flèche de tous les côtés, ça fuse de tous les côtés. Alors, je me pose la question, puisque ces particules élémentaires se sont enrichies si lentement, comment se fait-il tout d'un coup, c'est un éclatement, comme une fusée qui éclate, absolument une fusée. Alors, là, la mémorisation peut se faire d'une manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus constante, et s'enrichir de manière considérable. On voit très bien alors l'enrichissement qui se traduit par l'apparition de tous les invertébrés, et puis après ça, des vertébrés, les inventions qui accompagnent tout cet enrichissement, c'est quelque chose de colossal. Bon. Et alors, là, je comprends très bien que cet enrichissement, cette mémorisation, puisse permettre de trouver quelque chose de mieux et d'inventer. Mais, au point de départ, mais au point de stagnation de ces 3,5 milliards d'années, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et on est devant le mystère, là. Il n'y a pas de doute, vous ne croyez pas?
Oui, mais enfin...
Est-ce que le physicien peut expliquer précisément cette stagnation du développement de la vie, qui a été un événement colossal dans l'histoire du monde?
Jean Charon?
Je pourrais dire qu'une apparente stagnation ne veut pas dire que les choses ne s'enrichissent pas, mais il y a... Je reprends encore la Teilhard qui nous dit qu'il y a des passages de seuil.
On y reviendra, ça, parce que ça me paraît très important, ça. Oui,
oui, et oui. Où précisément, est-ce qu'on doit appeler ça une nouvelle invention, finalement, de la vie? Tout d'un coup, on franchit, on accumule l'information, et puis tout d'un coup, à un certain moment, il y a quelque
chose... Il y a une
chose,
émergence, quand même.
Il y a une variation qualitative, c'est pendant un moment une variation quantitative... Et tout d'un coup, il y a un brusque saut, un brusque passage d'un seuil, et qualitativement, les choses changent.
Tout à fait, parce que vous serez d'accord avec moi, personne ne se trompera entre un être vivant et un caillou.
Ah non.
On fera de la différence.
Non.
Ça, c'est vrai.
Bon. Oui, oui.
Par conséquent, il y a là même une cassure, il y a quelque chose qui a changé, il y a une émergence.
Oui, ça, hein? Sans aucun doute.
Sans aucun doute. Seulement... Je considère que dans le monde, il y a une espèce de continuité, hein, depuis le point de départ jusqu'à l'arrivée où nous sommes, c'est-à-dire l'homme.
Bon. Oui.
Et d'après ce que j'ai compris de votre livre, cette courbe est continue. Il n'y a pas de cassure. C'est-à-dire que l'émergence ne paraît pas s'imposer à votre système métaphysique.
L'émergence, vous pouvez avoir une variation continue, mais qu'à un certain moment, il suffit, disons que c'est la goutte d'eau, si vous voulez, qui va changer tout à fait. Je vais vous prendre un exemple de physique, qui est la cristallisation d'une solution, par exemple,
oui,
avec une variation de température. Vous avez la température qui peut varier d'une façon continue, et puis arriver à une certaine température, tout d'un coup, tout va se prendre en bloc, tout va se mettre à changer d'aspect, qualitativement, on peut dire. Prenez l'eau et la glace, simplement. Bon, vous allez faire varier la température de l'eau, depuis, vous allez faire descendre de 25 degrés jusqu'à... Vous ne verrez rien à peu près au point de vue changement qualitatif jusqu'au moment où vous allez approcher le point de congélation. Et là, tout d'un coup, il y a un seuil, il y a brusquement quelque chose.
Ah oui, mais c'est le même composition. Que ce soit de la glace, que ce soit du liquide, que ce soit du gaz, c'est toujours de l'eau, c'est toujours H2O.
Oui, mais enfin...
Tandis que quand vous prenez, vous mettez même une saute considérable entre ce qui est simplement la pré-vie, le proto-vivant, le proténoïde, et puis ou la protéine, et vous arrivez soudainement à quelque chose d'organisé qu'on appelle la bactérie, il y a tout de même une différence considérable. Ce n'est plus seulement qualitatif, il y a un passage brusque là, une émergence.
Oui, mais...
Si vous voulez, je prendrai une comparaison à mon tour qui n'est pas d'ordre physique, qui est d'ordre acrobatique.
Oui.
Lorsque vous voyez du trapèze volant,
oui. Hein,
bon, vous avez le trapéziste qui se lance, qui décrit une courbe.
Oui.
Et puis, à un moment donné, il va lâcher son trapèze pour attraper les bras du porteur. Il va y avoir là aussi une cassure, mais la courbe se continue. Les mathématiciens, d'ailleurs, ont un terme pour expliquer cette continuité avec une rupture.
Oui.
Mais dans l'histoire du monde, il y a des phénomènes de ce genre. C'est-à-dire que vous avez la courbe qui est ça, mais il y a un saut. On reprend les bras du porteur pour décrire encore une autre courbe, puis encore une autre bras du porteur.
Oui.
Alors, ces sauts me paraissent être très facilement intelligibles avec la matière chargée d'esprit. Ça, je comprends à peu près ce que ça veut dire. Encore, oui. Je garderai bien d'écrire dessus. Mais on voit à peu près ce que ça veut dire. Tandis que, d'après ce que j'avais lu dans votre livre, mais si je me trompe, vous me le dites, franchement, il m'a semblé que vous n'admettiez pas ces espèces de passages, de degrés. Si bien que vous dites que les particules élémentaires connaissent la réflexion. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Oui, à partir du moment où vous admettez que ces particules contiennent quelque chose, qui a quelques rapports, puisque c'est même quelque chose qui fait l'esprit, qui fait notre esprit, par conséquent, eh bien, vous pouvez très, je crois, relativement facilement admettre que certaines variations progressivement quantitatives, si vous voulez, et progressives, débouchent à un certain moment sur quelque chose qu'on devrait appeler une invention. Prenez par exemple, il y a des avions maintenant. Bon, les études sur l'aviation ont commencé depuis très très longtemps, et puis il n'y a jamais eu quelque chose qui se porte tout seul, jusqu'à un certain moment où véritablement, après une certaine continuité de recherche, tout d'un coup, il y a eu ce fait que le plus lourd de que l'air s'est trouvé volé. Alors, c'est au niveau de l'invention, et je crois qu'à partir du moment où on reconnaît, disons, chez ces particules quelque chose d'analogue à notre esprit, il y a des processus donc qui sont tout à fait analogues à ce qu'on appelle notre esprit, eh bien, on est obligé d'extrapoler ce que l'on constate chez nous, chez elles, chez ces particules, d'autant plus qu'il faudrait renverser les termes et dire que notre esprit, pour moi, disons, n'est simplement que le reflet, si vous voulez, de l'esprit des particules qui nous font.
L'esprit, cet inconnu, un dialogue entre Jean Charon et Pierre Leroy. Pierre Leroy.
Mais est-ce que, quand vous parlez de réflexion, ça veut dire une conscience qui se réfléchit, qui est consciente d'elle-même.
Oui.
N'est-ce pas? Bon. Or, l'animal qui fait des choses extraordinaires n'a pas conscience de ce qu'il fait. Je prends un exemple banal. Le fourmilion, c'est une espèce de petit insecte qui est muni à la queue d'une espèce de pelle.
Oui. Bon.
Il fait en entonnoir, et les insectes descendent le long de cet entonnoir, il les bombarde avec sa pelle. Bon. Cet outil organique qu'il a créé et qu'il a fondé, il n'en a aucune notion. C'est pas ce que c'est.
Il
n'a aucune conscience réfléchie.
Mais il s'en sert.
Il s'en sert, mais il n'a aucune conscience réfléchie.
Vous voulez dire qu'il n'a pas conscience d'avoir là un outil?
Ah, certainement pas. Je vous donne un autre exemple, si vous voulez, celui du poisson pêcheur à la ligne, qu'on appelle le Lasiognathus.
Oui.
Ce poisson a une raie dorsale qui est venue se piquer sur le sommet de son crâne. Et sur cette raie bien droite, il y a un filin.
Oui.
Au milieu de ce filin, il y a une amorce phosphorescente, car l'animal vit dans le noir total, bon, à 2000 mètres de profondeur. Puis ce filin se continue, il est terminé par trois hameçons qui sont presque identiques. aux hameçons de nos pêcheurs à la ligne. Voilà une invention extraordinaire. Mais probablement ne sert à rien, parce que cet animal est tout en gueule, il n'a qu'à ouvrir la bouche, d'autant qu'il a des fanons sur les côtés, il peut trouver c'est à sa proie. Deuxièmement, c'est idiot de mettre une amorce par derrière la tête, alors qu'on doit voir ce qui se passe devant. Et puis troisièmement, c'est pas mobile. Alors voilà une invention qui est très belle et qui est absurde. Si cette invention avait été réfléchie, on pourrait dire les particules élémentaires ont apporté là l'aide de leur réflexion. Mais quand on voit des idioties de ce genre, on se demande ce que ça veut dire. Vous voyez ? Alors ce sont des mystères, bien sûr, mais alors c'est précisément parce que vos particules élémentaires sont chargées d'esprit, elles sont chargées de conscience et de réflexion. C'est ça qui m'amène à poser la question de ce genre.
Oui.
Et là, je n'ai pas de réponse à donner à ça. J'aurai une réponse plus facile, si vous voulez, lorsque je vois l'animal se servir d'un outil extérieur à lui pour se nourrir. Par exemple, tel oiseau qui va prendre une brindille dans son bec, il va la prendre longitudinalement et il va piquer l'écorce avec ce bâton pour faire sortir l'insecte qui est derrière. C'est un des rares exemples d'outils externes utilisés par l'oiseau. Il y a d'autres exemples encore plus touchants que celui-là, les oiseaux jardiniers d'Australie, qui sont capables de faire des huttes où se fait la parade. Puis une fois que la parade est faite, la femelle va pondre dans un nid voisin qu'elle a construit, et quelquefois elle est enfermée dans son nid. Et certaines espèces d'oiseaux jardiniers apportent des fleurs fraîches tous les jours à cette femelle. Bon, c'est très touchant, c'est réfléchi, j'en sais rien. Et nous arrivons maintenant à un problème très grave, celui de la personne, précisément. Si l'oiseau avait cette réflexion que vous donnez aux particules élémentaires, il saurait que c'est lui. Et il aurait un jeu opposé au tu. En fait, il n'y a pas ça.
Jean Charon ?
Je ne sais pas si je raisonnerais tout à fait de cette manière-là dans le cadre où j'ai placé l'esprit. D'abord, dans le détail, pourquoi, par exemple, vous avez des poissons qui ont quelque chose de mal placé, mais qui ressemble à une canne à pêche ?
Absolument, oui.
Bon, ça, vous savez, je ne sais pas, est-ce que peut-être ça a servi à un certain moment ? On pourrait dire ça aussi.
Le professeur Lucien Aquino prétendait que l'homme ne faisait que retrouver ce que la nature avait trouvé. Et il m'a même dit un jour, nous n'avons pas encore trouvé... La fermeture est claire, mais on y arrivera peut-être. Vous trouvez la tuile, vous trouvez l'hameçon, vous trouvez la pince à sucre, cette pince à sucre dont on sert vous avez, à trois dents. Ben, vous trouvez ça sur les oursins, il y en a des quantités, les pélicellaires, etc. Vous avez des quantités de choses de ce genre, qui sont des inventions extraordinaires, et que l'homme retrouve par sa réflexion, sans savoir que l'animal l'a fait. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'il y a une partie de la biologie qui étudie précisément tous ces instruments pour savoir ce qu'on peut en tirer pour l'homme. Alors, ce qui me frappe, ce n'est pas le fait de l'invention, qui est déjà considérable, mais c'est le fait qu'ils ne soient pas conscients.
Dans quelle mesure est-ce qu'on peut affirmer qu'ils ne
soient pas conscients ? Parce qu'ils le diraient, ils le feraient savoir. S'ils avaient une réflexion, ils le feraient savoir.
Pourquoi ?
C'est le propre de la
personne. Il faudrait qu'on puisse comprendre son langage.
Oui, c'est que je rentre bien. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, constructeur, inventeur, ne se rend pas compte de son invention. Il peut l'utiliser, mais il ne s'en rend absolument pas compte. La preuve, c'est qu'il fait des erreurs considérables. Cette espèce de lumière qu'il met par derrière est absurde, en soi.
Non, on peut dire...
Seulement, ce sont des détails, si vous voulez. Ce qui est plus important pour moi...
Oui, j'entendais dire l'homme aussi.
Ben oui,
on peut dire qu'effectivement...
C'est-à-dire que l'homme fait aussi des bêtises. C'est certain, il ne fait que ça, même souvent. Mais enfin, il a fait même des inventions, il est conscient de cette invention. Vous parliez tout à l'heure des avions. Bon,
oui.
Tout à fait d'accord, mais l'oiseau l'a inventé avant. Le poids lourd a franchi l'air. Le mammifère a inventé le vol, il y a aussi des écureuils volants, etc. Il y a des chauves-souris différents, il y a des poissons volants. Par conséquent, le vol en tant que vol n'est pas une invention purement humaine. C'est quelque chose qui est déjà dans la nature, qui existe. Alors seulement, ce qui m'intéresse dans votre affaire, et ce qui me fait poser des problèmes, c'est la notion de la personne en tant que personne. C'est-à-dire le jeu. Alors vous dites, mon jeu est répandu dans toutes les particules élémentaires qui constituent mon moi. C'est bien ça, n'est-ce pas ?
C'est ça. Disons que pour quand même peut-être insister sur ce point, oui. Et en particulier c'est un point qui me différencie des conceptions teilhardiennes.
Nous allons y venir, oui, bien sûr.
Pour oui. Teilhard, la matière et les particules avaient donc une psyché élémentaire, et peu à peu, en se complexifiant, disons, elle finissait par faire des émergences, comme les animaux, l'homme. Bon, mais comme il n'y avait pas une répercussion de la personne, du jeu, disons, la particule elle-même, la particule élémentaire, composant un être complexe, ne s'enrichissait pas, ou ne possédait pas, le jeu, disons, la personne de l'être complexe lui-même. Je veux dire par là qu'à partir du moment où la mort, par exemple, désagrégeait tout cet ensemble, eh bien, on ne pouvait pas parler du jeu de la personne qui persistait dans chacune des particules.
Je vois bien ce que vous voulez dire, c'est voilà. Sûr, c'est évident.
Je crois que c'est peut-être ça, probablement, l'essentiel. Pour moi, étant donné que les particules qui ont vécu l'expérience d'un homme, si vous voulez, ou d'un animal. Mais cette expérience a été vécue totalement, mm-hmm. en tout cas pour certaines, pour un grand nombre d'entre elles, c'est-à-dire en particulier les cellules qui ne se renouvellent pas, les chromosomes, etc. Bon, et là, vous avez donc une accumulation d'informations à l'échelle de chaque particule, qui est une accumulation qui est égale à celle que vous avez vous-même, que vous concevez vous-même en tant que tout. Oui. Autrement dit, moi, Jean Charon, je suis répercuté, mon moi est répercuté dans chacune des particules qui constituent mon corps. Et donc, quand toute cette machine va être désagrégée, eh bien, il va y avoir une aventure spirituelle de mon moi qui va se poursuivre à travers ces particules. Bien entendu, ces particules vont poursuivre leur aventure sur le plan spirituel, elles vont constituer d'autres agglomérats, d'autres machines, disons. Mais moi, personnellement, je serai toujours, car c'est de l'information accumulée et qui n'est jamais perdue, je serai toujours dans ces particules alors qu'elles continueront leur aventure. C'est ceci qui me fait dire que par conséquent, nous avons en réalité des racines qui plongent dans un passé quasi éternel. Quand je dis éternel, ça veut dire égal à celui de l'univers lui-même, et que notre aventure, en tant que personne, va se prolonger éternellement dans le futur, ou aussi longtemps, disons, que ces particules qui emportent mon moi.
C'est pas très réjouissant.
Pierre Leroy,
s'il faut continuer cette aventure un petit peu dans le même cadre, ou dans les mêmes proportions, les mêmes difficultés que celles que nous vivons aujourd'hui, c'est pas très consolant. Et en plus de ça, je ne sais pas, je ne vois pas très très bien cela. C'est pas moi, je vous dis, je raisonne toujours en biologiste et j'ai tort. Je ne veux pas faire du biologisme, mais enfin, j'en suis tout de même acculé. Je vois tout de même une progression.
Oui.
Une progression ordonnée, qui va du moins vers le plus.
Oui.
Et qui va toujours vers le moins probable, avec la vie.
Oui.
Bon. Alors, il arrive un moment où plus c'est compliqué comme structure, plus apparaît la conscience de l'individu structuré. Vous me direz, c'est pas la structure qui réfléchit. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas du tout la structure qui réfléchit. Mais pour réfléchir, il faut une structure. Alors, oui. Quand vous parlez de votre moi qui va être réduit à particules élémentaires et qui va poursuivre son aventure spirituelle, je ne sais où, dans le cosmos, probablement dans des lieux tout à fait inconnus du cosmos, c'est très possible. Je ne vois pas d'inconvénient à ça, mais je suis un tout petit peu surpris, un petit peu chancelant devant mes opinions personnelles, qui ne valent pas grand-chose probablement, mais enfin quand même, je ne vois pas très bien, vous voyez, comment on peut concevoir qu'un être qui aura vécu, qui aura aimé, qui se sera donné, qui aura été peut-être un héros, toutes les manières, qui aura eu toutes les vertus, si vous voulez, les qualités, bon, va être réduit à une particule élémentaire chargée de toute cette mémoire qui servira à qui, à quoi ?
Jean Charon ?
Écoutez, je crois qu'il n'y a pas... Vous avez justement donné, je crois, un exemple qu'on peut retenir, que je vais présenter peut-être d'une façon un petit peu différente. Je vais présenter, par exemple, un orchestre.
Oui.
Bon, l'orchestre, c'est la structure. C'est la structure complexe. Il y a beaucoup de musiciens qui sont là. Ils jouent de la musique, c'est une symphonie. Et bon, qui est-ce qui va véritablement penser cette musique, jouir de cette musique? Ce n'est pas l'orchestre lui-même. L'orchestre, il n'a pas d'esprit. Il n'a rien du tout. Il est simplement, éventuellement, les auditeurs et l'orchestre qui joue. On peut considérer l'ensemble de cette structure, c'est ceux-ci qui jouent. C'est avec leur pensée, et, chacun d'eux participe. Si je prétendais que la structure avait un moi, je me tromperais là. Car en réalité, la structure qu'est l'orchestre et la salle qui écoute n'a aucun moi.
D'accord.
Ça passe par les individus
D'accord,
qui forment cette structure.
Oui.
Le concert est fini.
Yeah.
Ils vont se séparer.
Yeah.
Ils emportent la mémoire de ce plaisir qu'ils ont eu à écouter le concert. Et ils participeront peut-être ensuite à d'autres concerts, à d'autres expériences.
Oui, mais le violoniste qui rentre avec sa boîte à violon, il peut avoir la mélodie dans la tête, il ne pourra pas répéter lui-même cet orchestre, il n'y a rien à faire. Il faudra la structure de l'orchestre pour redonner tout le choral.
Il aura la mémoire de ce qu'il a
vécu. Oui, il aura la mémoire, mais une mémoire qui sera purement intellectuelle, purement auditive.
Il emporte la mémoire des vécus, comme c'est la mémoire du vécu, de ce qu'il a vécu, puisque c'est cet espace dans lequel il emmagasine l'information, c'est une mémoire en réalité.
Mais vous ne croyez pas que c'est un présupposé, ça? C'est un axiome ou quoi?
Ce n'est pas un axiome, à partir du moment où vous admettez... C'est exactement la même chose que... Je crois que je peux pousser la comparaison, presque textuellement, à ce que nous venons de dire sur les personnages qui composent un concert et les auditeurs.
Oui, je vous embête
ils ont la mémoire, ils ont le souvenir, ils vont d'une façon rétrospective, jouir de ce qu'ils ont entendu.
Oui, je vous
ils
embête en ont un petit mémoire. Peu parce que j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous personnalisez la particule. Vous en faites un centre.
Oui. Je ne la personnalise pas, je dis que...
Si elle a la réflexion, si elle se souvient, si elle a la mémoire, si elle est capable de vivre son passé, son vécu,
oui.
Quelle différence faites-vous avec une personne?
Eh bien, je crois que... Mais ça, alors je l'ai vraiment écrit, j'allais jusqu'à dire que l'aventure spirituelle de l'univers, c'était l'aventure des particules.
Exactement, c'est ça. C'est ça qui c'est me... Qui me... C'est là que je bute légèrement et même sérieusement.
Oui, mais vous ne pouvez pas m'opposer, je crois, je reviens à mon exemple, que l'aventure spirituelle, c'est le concept d'orchestre, pour revenir à notre image de tout à l'heure, parce que là, il ne reste rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien en dehors des personnes, des auditeurs et des
musiciens.
Pas
plus que vous ne pouvez m'opposer que pour réfléchir, il faut que j'ai une structure. C'est tellement vrai. Si tout à l'heure j'ai un accident en tombant dans la rue... et que j'ai une partie de mon cerveau qui est abîmée, je peux être complètement désordonné dans mes gestes, dans mes paroles, dans n'importe quoi. C'est-à-dire que là, il y a un élément structurel qui est abîmé, et c'est l'expression de la personne qui n'existe plus. Alors que font les autres particules élémentaires dans ce cas-là? Et je poserai le même problème à propos des débiles mentaux. Elles ont exactement les particules élémentaires qui ont tout un passé, tout un vécu, qui ont une mémoire et qui cependant, bien qu'organisant un être humain, ne savent plus s'en servir.
Oui, je crois que là je vais encore poursuivre sur mon image de l'orchestre. Peut-être que j'en abuse, peut-être un petit peu. Mais pourquoi est-ce que les particules individuelles, pourquoi des individus, des musiciens ou des auditeurs, ont intérêt à se réunir. Parce qu'effectivement, tous ensemble, on le constate avec un orchestre, ils peuvent faire beaucoup plus que s'ils étaient tout seuls. Donc ils ont constitué cette ambiance, qui est les auditeurs, les musiciens. Bon, et tout ceci va donner quelque chose que chaque individu séparément sera incapable de reproduire. Le violoniste ne peut pas faire à lui seul tout l'orchestre.
C'est évident.
Donc, ils se sont réunis. Ils ont créé une structure complexe.
Ça, c'est tout à fait d'accord.
Mais ensuite, ils ont la mémoire de ce qu'ils ont entendu tous ensemble.
Oui.
Et ceci, c'est emmagasiné, c'est de l'information emmagasinée. De sorte que cette expérience vécue à plusieurs, ils en ont ensuite la mémoire. Et là, c'est là véritablement qu'il y a un souvenir de la structure complexe. À partir du moment où vous prêtez, à cet espace de l'esprit que vous avez transporté chez les particules, quelque chose qui est tout à fait analogue à ce que nous pensons quand nous pensons notre esprit, à ce moment-là, vous devez conclure que véritablement, cette information de la vie commune, de la vie ensemble, eh bien, c'est quelque chose qui est enrichissant pour la particule Et retournant même la proposition, je dirais, si les particules créent des structures complexes, c'est précisément pour avoir des machines qui leur permettent d'avoir la mémoire de choses qu'elles sont incapables d'acquérir toutes seules.
L'esprit, c'est inconnu. Pierre Leroy.
Il y a quelque chose même qui me gêne. Parce que vous avez dû faire un complexe,
oui,
pour cet orchestre. Et vous avez dû faire une synthèse de ce complexe.
Oui.
Alors, dans les particules élémentaires, vous avez l'orchestre, la structure, mais qu'est-ce qui fait la synthèse? Qu'est-ce qui vous permet de dire « je » et de vous rapporter à vous vos actes personnels, que vous taxez de personnel et à juste raison, si ce sont des particules élémentaires qui sont chargées de souvenirs et qui viennent apporter leur concert, sans orchestre cette fois-là, apporter chacun leur apport à ce que vous pouvez penser, réfléchir, trouver, inventer, que ce soit au point de vue artistique, au point de vue scientifique ou n'importe quoi, vous créez quelque chose, vous inventez quelque chose, et vous avez la possibilité de dire « c'est moi qui fais ça, c'est je ». Il y a donc une synthèse qui est faite. Qui est-ce qui fait cette synthèse? Je vois par exemple chez le Père Théard, vous comprenez, je comprends chez le Père Théard, à moitié tout de même. J'aime bien ses grains de conscience, parce que pour lui, il n'y a pas de matière et esprit, ça n'existe pas, il n'y a pas de dualisme, c'est matière-esprit. Exactement comme dans une médaille, vous avez un avers et un envers, bon, bien, c'est la médaille.
Oui.
C'est la même chose. Bien. Seulement, plus la structure va en se compliquant, plus on voit la possibilité à cette conscience de se manifester vers l'extérieur. Et alors là, je puis très bien suivre depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée, en admettant que l'homme soit le point d'arrivée, je puis très bien suivre dans toutes les étapes, avec la complexification surtout du cerveau et du système nerveux central, une possibilité énorme de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Car pour Théard, le mot « conscience » ne veut pas dire « conscience » comme nous l'entendons au point de vue moral. C'est la saisie du monde extérieur. C'est ça, la conscience. Bon, pour Théard. Alors, plus la structure est compliquée, plus cette saisie du monde extérieur se fait totale, jusqu'à arriver à un autre passage, une autre émergence, qui permettra à cette conscience de se réfléchir sur elle-même et de pouvoir dire « c'est moi qui ai vu ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui suis coupable de ça ». Tandis qu'avec les particules élémentaires chargées de mémoire, j'ai plus de problèmes, j'ai plus de difficultés à réaliser cette unité qui constitue vraiment la personne.
Jean Charon.
Non, mais c'est parce que vous superposez, et Théard le faisait aussi, il superpose d'une certaine façon deux types d'esprit.
Non, pas du tout.
Il y a l'esprit qu'il a accroché, disons, à la matière, qui est ce biface esprit-matière qui ne forme qu'un. Et puis ensuite, là, il dit où ça se trouve. Il dit, effectivement, ça se trouve associé à la matière.
Toujours, oui.
Et puis ensuite, il parle d'un autre esprit qui ne peut plus situer nulle part.
Attention, à ce moment-là...
Il parle de l'esprit du tout. Attention, mais c'est l'esprit de notre orchestre dont on parlait tout à l'heure. Il n'existe pas.
Si je comprends bien, à ce moment-là, vous faites intervenir un autre point de vue de Théard, qui est le point de vue religieux. C'est totalement différent.
Oui, c'est finalement différent.
Mais c'est pas ça du tout. Vous verrez même dans le phénomène humain, il met même une note, je crois que c'est à la page 186, si mes souvenirs sont exacts, vous trouverez en note une petite avertissement métaphysique en disant qu'il ne voit pas d'inconvénient majeur à ce qu'une cause extra-cosmique intervienne pour créer quelque chose de plus. Mais ça, c'est en dehors de son schéma.
Oui.
Son schéma, précisément, c'est la perpétuité de la conscience qui, en montant dans des grades différents de structure, arrive à se manifester telle qu'elle doit se manifester jusqu'à la réflexion. Alors, la réflexion fait un passage nouveau, comme la vie a fait un passage différent de l'atome, si vous voulez, une émergence. Mais c'est tout de même la même continuité. C'est encore mon trapéziste qui a lâché son trapèze pour se raccrocher au porteur. Mais c'est toujours la même continuité. Alors, là-dessus vient se greffer une notion religieuse, ça, tout à fait d'accord, à ce moment-là, oui. Mais dans l'idée de Théard, dans le phénomène humain, vous remarquerez qu'il ne fait absolument pas appel à quelque cause extra-cosmique que ce soit. Pas du tout. C'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, en haut lieu. Bien sûr. Mais sa pensée, c'est d'étudier du point de vue scientifique, du point de vue phénoménal, ce que la science doit faire. Elle étudie le phénomène. Et nous admettons, vous et moi, que tout ce qui est naturel doit avoir une explication naturelle.
Oui.
Bon, d'accord. Eh bien, Teilhard est parti de ce principe pour faire son schéma magnifique, cette fresque extraordinaire, qui part de zéro, ou bien de la particule élémentaire, si vous voulez, déjà, avec un grain de conscience, très élémentaire, mais qui va aller en s'épanouissant, en se gonflant, si vous voulez, avec la structure. Mais je ne crois pas que ce soit la somme des particules ou un émiettement de l'esprit, comme vous dites. Je ne crois pas qu'il y ait émiettement de l'esprit chez Teilhard. Je ne pense pas. Je crois que pour lui, non, pas du tout. Précisément, c'est la structure qui fait que l'esprit peut se manifester.
Non, mais l'objection que je voulais vous faire, comme physicien, c'est une objection technique. Teilhard plaçait une psyché, qu'il appelait une psyché élémentaire, disons, oui, dès le niveau de la particule. Là, on savait, il décrivait les choses d'une façon précise, on savait exactement où se situait la psyché. Elle était élémentaire, mais on savait. Et puis tout d'un coup,
je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est une hypothèse, chez Teilhard.
Oui, c'est une
matière-esprit, c'est-à-dire que... On ne peut pas faire de dichotomie, vous comprenez?
Oui.
Les deux sont conjoints. On ne peut pas les séparer. Il ne peut pas y avoir de matière sans esprit. Il n'y a pas d'esprit sans matière dans notre univers. Ça n'existe pas. Bon. Alors, par conséquent, ce n'est pas quelque chose qui est placé là au bon endroit. C'est le constituant même qui est là. C'est la matière elle-même.
C'est ça, oui.
Donc, on n'a pas placé un esprit à cet endroit-là. Non.
Disons que la matière a donc des qualités pensantes ou des qualités de psyché, si vous voulez. Est-ce qu'on peut dire ça?
Non.
Non.
Non, je ne dirais pas ça. Je dis qu'elle a des éléments qui permettront, dans la suite de l'organisation, de laisser apparaître ce qu'elle a. Mais elle n'est pas pensante. Ah. On joue sur les mots, probablement.
On joue peut-être un peu là sur les mots.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que ensuite, Teilhard va quand même concevoir les choses un petit peu différemment. Car alors qu'il disait qu'il y avait ce biface envers endroit, dehors, dedans, qui était matière-esprit, et pour le physicien, si vous voulez, on voyait quand même à peu près où ça se plaçait. On se disait, tiens, la matière que j'étudie en physique, c'est vrai, là c'est une hypothèse de Teilhard. D'ailleurs, il ne dit pas pourquoi c'est comme ça, mais
Bien sûr, c'est bon.
Mais là, on voit, disons, où est l'idée, on voit où ça se passe. Et puis tout d'un coup... Il dit qu'il va y avoir une structure complexe, et cette fois-ci, cette complexification va donner une intensification de la conscience.
Écoutez,
et là je ne sais plus où ça se place. Là.
Non, je me permets de vous reprendre, parce qu'il dit qu'il va y avoir. Pas du tout. Il constate qu'il y a. Alors c'est précisément à partir de cette constatation phénoménale qu'il construit tout son système.
Oui, mais est-ce qu'on n'est pas encore, je reviens encore à mon orchestre, est-ce que justement cette extrapolation... présente des difficultés, justement, parce qu'elle revient à dire, eh bien, j'admets que l'orchestre devient une personne, si vous voulez, et que c'est elle à qui je vais prêter maintenant ce supplément de conscience. Alors que, je crois que tout à l'heure, on a dit que si on conserve l'image de l'orchestre, il n'y a rien dans l'orchestre, il n'y a pas de supplément de conscience.
Vous avez raison, c'est l'orchestre qui pense, qui joue.
Oui, mais enfin, ce sont les personnages qui forment l'orchestre, qui en réalité...
Ce ne sont pas les personnages qui ont toute la synthèse en eux.
Mais retirer ces personnages, qu'est-ce qui resterait?
Il ne resterait pas personne, il n'y a plus de structure.
La symphonie, elle ne peut pas être suspendue en l'air, si vous voulez.
Non, il faut une structure.
Il faut qu'elle soit pensée, disons. Il faut qu'elle soit pensée par quelqu'un et qu'elle soit pensée par les individus.
Bien sûr, oui.
Vécue par les individus.
Par les individus.
Et non pas par l'orchestre.
Moi, je veux bien. Et ces grains de conscience, ils contribuent, si vous voulez,
oui,
à la formation de la conscience, mais ils ne sont pas la conscience en tant que telle.
Oui.
Tandis que pour vous, ils sont conscience en tant que telle.
Oui, c'est probablement de cette façon-là, effectivement.
C'est ça.
Où je l'interprète, parce que, disons, là, je suis sur un terrain qui me semble plus solide pour le physicien.
Oui, c'est ça.
Pour le physicien. Oui.
C'est ça, c'est ce qui me manque. Comprenez, je n'ai pas pu lire la relativité complexe, parce que
c'est trop difficile, je ne peux pas dire ça,
c'est trop fort pour moi.
Non.
Mais ça manque dans cette discussion, c'est évident. Moi, je ne vous parle que d'après mon expérience personnelle, et puis d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai étudié, mais il me semble que dans votre affaire qui est... pour moi, excessivement importante. Très importante parce que c'est une brèche, c'est un créneau nouveau qui est ouvert dans la science et qui va permettre de regarder un petit peu plus loin, d'avoir des horizons un peu moins fermés que ceux que nous donne la science orthodoxe. Il faut de même sortir de cette espèce de gang pour voir autre chose. Et c'est votre mérite, vous l'avez fait, ça, c'était pas tant. Moi, je vous taquine actuellement parce que je veux comprendre. Et je vous dis mes difficultés. Et mes difficultés n'en sont pas du tout sur le fait qu'il y ait une conscience élémentaire. Ça m'est absolument... au contraire, c'est tout à fait dans mes idées. Mais c'est de voir que ces éons, c'est-à-dire ces êtres...
Ce sont les électrons, disons...
Chargés de toute la puissance spirituelle qu'ils ont acquis pendant leur existence, vont se continuer éternellement comme ça. Pour retrouver quoi alors? Ils vont se retrouver un jour ou l'autre? Est-ce que vous allez réapparaître, vous, sous la forme encore Jean Charon, tel que vous êtes maintenant, ou bien quoi?
Ah non, de toute façon, je ne peux plus revenir en tant que Jean Charon, puisque
mais attention, vous m'avez dit que vos particules élémentaires avaient la mémoire, et qu'elles vivaient leur passé et leur vie. Par conséquent, c'est inscrit maintenant dans vos particules élémentaires, votre expérience et vos expériences personnelles. C'est inscrit.
Et ça ne peut pas se perdre.
Et ça ne peut pas se perdre en plus. Oui. Par conséquent, vous allez toujours être Jean Charon.
Je suis Jean Charon plus tout mon passé. Mon passé qui remonte très très loin.
Oui, bien sûr, si vous voulez. Si vous voulez, ça, c'est-à-dire vous avez vos racines dans le monde, dans l'univers.
Oui.
Vous êtes d'accord. Mais maintenant que vous avez vécu, un jour ou l'autre, vous serez bien obligé de faire comme tout le monde, de nous quitter.
Oui.
Bien. À ce moment-là, il va y avoir la désagrégation de toute votre substance, mais il restera des particules élémentaires qui sont chargées de Jean Charon.
Resteront Jean Charon. Qui avait participé.
Alors, est-ce que Jean Charon va rencontrer un autre éon qui sera chargé aussi de la même manière? Est-ce que ça sera une sympathie qui les attirera pour reconstituer quelque chose, ou bien ce sera une pure attraction physique?
Non, je crois que, effectivement, le Jean Charon que j'ai été se trouve dans les particules qui ont vécu avec moi une certaine expérience. Elles ont toutes, individuellement, une aventure dans le passé qui est différente. Mais elles ont en commun, elles ont une sorte d'intersection, tout en commun, qui est l'intersection de la vie avec Jean Charon. Et c'est pour ça que, de mon vivant, la notion de ma personne jaillit d'une façon beaucoup plus en relief que le reste du passé. Parce que là, on est tous en commun, disons, à chanter le même chant. Oui. C'est l'expérience vécue de... Bon, mais ensuite, Jean Charon, l'expérience Jean Charon va rester une petite chose, mais elle ne sera pas perdue. Mais elle restera quand même dans chacune des particules qui ont vécu avec moi. De sorte que... Et elles continueront cette aventure spirituelle.
Mais est-ce qu'elles pourront s'associer à d'autres particules élémentaires?
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce qui les attirera?
Eh bien, ce qui les attirera, c'est...
Est-ce que c'est votre moi qui les attirera?
Pas, non, pas mon moi spécialement.
Non.
Dans cette interprétation-là, je poursuis, disons, avec le reste de l'univers, une aventure spirituelle.
Oui.
Je trouve que je me raccorde quand même à certaines versions beaucoup plus orthodoxes, disons, de la philosophie religieuse, je dirais, en ce sens que... Mon moi, disons, persiste, le moi.
Très spiritualiste, finalement, vous êtes très spiritualiste, oui.
Je ne disparais pas, mais qu'est-ce que dit toutes les religions? La plupart des religions disent que le moi ne disparaît pas, ou enfin, on espère qu'il ne disparaît pas, ou on le croit, ou on le croit, avec plus ou moins de conviction.
On le croit.
Mais finalement, je dis la même chose. J'ai simplement essayé de supporter cette idée d'une façon un petit peu différente.
L'esprit s'est inconnu, Jean Charon et Pierre Leroy poursuivent leur dialogue avec le public du Studio 105. Madame.
Monsieur, je dois avouer que c'est une théorie pour le moins extrêmement originale. Et je voudrais continuer un petit peu dans l'idée qui a été soulevée tout à l'heure. Si je comprends bien, vous êtes formé d'une infinité de particules qui seront douées de conscience et de mémoire.
Oui.
Mais après votre mort, ces particules vont se désagréger.
Oui.
Et vont acquérir une vie indépendante.
Oui.
Qui pourront éventuellement s'allier avec d'autres particules.
Oui.
Et former d'autres individus.
Avec le souvenir quand même de
avec le souvenir passé. Est-ce que vous concevez que dans la continuité des temps, ce processus conduit à une uniformisation des individus qui seront vivants. Parce que chacune de vos particules va s'allier à une infinité d'autres particules qui vont former un autre corps qui va à son tour reformer d'autres particules. Et c'est un brassage de toutes les particules au hasard.
Ah non, je n'ai pas dit au hasard. À partir du moment où je leur prête de l'esprit, je leur prête la notion de choix également.
Ah, elles vont s'allier selon des règles bien déterminées, si je comprends bien.
Oui, c'est parfaitement concevable. Ça n'est pas, on ne jette pas toutes les particules et puis ensuite elles se mettent en vrac. Et puis, non, je crois qu'il y a un certain choix. D'ailleurs, il me semble que ce choix, les biologistes aussi constatent quand même des choix qui s'opèrent constamment. Ah oui. Il y a un choix au niveau des chromosomes, au niveau des gènes. Enfin, c'est très frappant, ce choix. On le voit finalement au niveau du plus petit, et quand on le place au niveau des gènes. Ce que je dis simplement, c'est que ce choix a encore lieu au niveau en dessous, c'est-à-dire au niveau des particules qui viendraient constituer les gènes.
Bien, les micros sont libres pour une autre question. Monsieur.
Je voudrais notamment savoir quelle différence il y a entre vos particules élémentaires et les monades de Leibniz. C'est la première question. La deuxième question, c'est l'éternel retour transposé aux électrons. Je pense que Nietzsche a également émis cette hypothèse, mais à un niveau beaucoup plus haut que le vôtre. D'ailleurs, pourquoi cette particule élémentaire serait-il l'électron, et pourquoi pas le neutrino ou quelque chose d'autre? On est en pleine fantaisie. Alors je me demande si vous parlez en tant que romancier ou en tant que savant.
Je vais répondre brièvement. En ce qui concerne les monades de Leibniz, oui, c'est vrai, je ne suis pas le premier à avoir dit ça. Ce que je crois avoir fait par rapport à Leibniz, c'est d'avoir relié cette conception à la physique actuelle. Maintenant, vous me dites, par exemple, pourquoi pas le neutrino, pourquoi pas le proton, pourquoi est-ce que ça se trouve dans l'électron? Bien, je vous l'ai dit, ceci vient d'une étude, une recherche que j'ai faite, qui est une recherche de physique. Il se trouve que les électrons apparaissent comme étant des particules capables de contenir un espace qui est un espace-temps particulier dont je vous ai parlé. Ça n'est pas le cas des autres. Et voilà pourquoi. C'est tout ce que je peux vous dire.
Bien. Monsieur, vous avez la parole.
Je n'ai pas lu votre livre, mais vous avez dit que l'ordre croît toujours à l'intérieur de l'électron, dans l'espace-temps de l'électron.
Oui.
Bon, alors je comprends bien que l'ordre peut... décroître indéfiniment, parce que j'imagine comment elle peut arriver à la fin en état de désordre complet, mais alors comment elle peut croître indéfiniment? Ça, c'est une question pour l'ordre, n'est-ce pas? Deuxièmement, vous avez parlé justement du temps cyclique à l'intérieur. Bon,
oui.
Si le temps est cyclique, donc l'ordre arrive à un moment de décroître, parce que c'est cyclique. Donc il y a une contradiction là. Troisièmement, vous savez que l'électron avec le positron peuvent s'annihiler pour donner de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là dans cette mémoire-là? D'accord? Et puis alors, vous avez parlé de l'esprit, mais jamais de l'âme. Si un corps vient juste de mourir, et apparemment, il n'y a aucun électron qui s'échappait, alors, quelle est la différence entre le corps juste avant et juste après la mort? N'est-ce pas? Et une autre remarque, Asimov, il a écrit un bouquin sur le trou noir, et il dit que nous vivons à l'intérieur d'un trou noir. Donc, ces idées, c'est déjà existé, n'est-ce pas?
Et à Jean Charon?
Voyons, la première question que vous m'aviez
c'était
posée.
C'était l'ordre, comment vous
pensez? L'ordre croît sans cesse,
oui.
À l'intérieur de l'espace de ces particules, mais exactement de la même façon qu'on constate qu'il décroît sans cesse dans notre espace-temps. Je ne pense que vous ne faites pas d'opposition à ce que ça puisse se faire. L'ordre, c'est le principe de l'entropie croissante, c'est quelque chose qui a lieu dans notre espace de la matière, notre espace ordinaire. Bien, comme je vous l'ai dit, il se trouve que dans cet espace-là, parce que d'ailleurs il y a un renversement du temps qui est connu, qui est étudié, qui a lieu dans les trous noirs en particulier, là vous avez au contraire un ordre qui va croissant.
Mais alors comment vous définissez que l'information est... emmagasiné dans un ordre, n'est-ce pas? À l'intérieur de l'électron, parce qu'il n'y a pas une structure matérielle à l'intérieur, d'accord?
L'information est emmagasinée, oui. Qu'est-ce qu'il y a?
Sous quelle forme, alors?
D'une façon précise, sous forme électromagnétique, mais ça, c'est la structure elle-même de l'électron. Bon, mais on ne va pas rentrer dans le détail de ces choses-là.
Bon, bon. Mais alors l'électron, les positrons...
Alors, un autre problème, celui du temps cyclique. Vous aviez trouvé une opposition à qu'est-ce que vous disiez?
Oui, j'ai dit que si le temps est cyclique, donc l'ordre arrive à un moment de croître, puisque
pourquoi
c'est cyclique.
Supposer notre univers.
Vous voulez dire alors que le temps est réversible?
Non, le temps est cyclique, ça veut dire qu'il revient sans arrêt en ayant emmagasiné.
Parce que le temps cyclique, c'est-à-dire il revient à un point de départ.
Non, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites que le temps cyclique devrait produire automatiquement une perte d'information.
Non, une décroissance, puisque en tout cas, il revient à son point où l'information était moins qu'après.
Oui, mais il garde l'information, ça veut dire que les événements passés sont là, ils seront présents, disons, au cycle d'après. Les événements passés seront tous là, mais également les événements vécus vont s'accumuler.
Alors comment vous définissez un cycle de temps? Qu'est-ce que c'est un cycle?
Eh bien, c'est comme je vous le dis, les événements passés, supposez un cycle, le cycle numéro 1, oui. Il y a eu un certain nombre d'informations qui sont accumulées. Bon, va recommencer le cycle. Ça veut dire que les mêmes phénomènes du cycle précédent sont emmagasinés, ne sont pas perdus, mais qu'il va pouvoir s'en ajouter d'autres.
Bon, en tout cas, ça donne rien de nouveau à la nature du temps.
Alors, donc, je crois que ça donne quelque chose de nouveau. Vous prenez le temps de notre univers. Si l'univers, comme un certain nombre de cosmologies le proposent, l'univers a des pulsations et des contractions continuelles. Alors, notre univers a une pulsation, actuellement, il est en expansion. Bon, il va avoir ensuite une contraction, et puis ensuite, il va recommencer à avoir une expansion. Vous voyez, voilà, un temps qui est cyclique, il va y avoir des phases de l'espace qui vont revenir d'une façon analogue, mais l'expérience passée s'est accumulée, ça veut dire que l'information s'ajoute.
Ce n'est pas le temps qui est cyclique, c'est le phénomène qui est cyclique, là, parce qu'il se passe dans le temps. Donc la question suivante, c'est l'âme. La différence entre un corps qui vient de mourir et le corps avant. Qu'est-ce que manque là?
Je vous redonnerai parce qu'il faut être bref et prendre des images. Je vous dirai simplement l'orchestre de tout à l'heure, quand il se sépare, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, il y a simplement chez les musiciens la mémoire de la symphonie qui a été vécue. Cette mémoire n'est pas perdue, oui, mais évidemment, l'orchestre n'est plus là.
Oui, mais c'est-à-dire que la structure a disparu, justement.
La structure
Leroy
a disparu.
Oui, mais...
C'est pour ça que je ne prête pas une âme à la structure, parce que je ne vois pas ce qui reste.
Mais si le mort est encore là, sa structure matérielle est toujours là, donc les particules élémentaires sont toujours là. Et qu'est-ce qui manque? C'est ça le problème.
Pierre Leroy, vous voulez ajouter quelque chose et sur cette question et sur cette réponse?
Mais j'ai pas grand-chose à ajouter parce que, en effet, c'est un problème qui se pose. C'est pas, étant donné que à la mort, il y a une séparation avec la vie, c'est-à-dire que la matière reprend ses droits complètement, oui. Mais cette matière est même pénétrée d'esprit. Alors je vois un peu le problème qui se pose. C'est certain, ces particules élémentaires, avant qu'elles ne retrouvent leur libération totale, il va se passer un temps assez considérable, mais ça n'avance rien d'ailleurs.
Non, mais quand l'orchestre a fini de jouer, je continue sur mon exemple de l'orchestre, parce que je crois qu'il est quand même bon. L'orchestre peut s'arrêter à un certain moment. Évidemment, oui. C'est pas comme quand il joue. Vous êtes d'accord? Il n'y a plus d'expérience vécue.
Oui, donc,
mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il n'y a rien de mystérieux.
À l'arrêt du jouet, qu'est-ce qui est analogue là? C'est ça le problème.
Mais c'est la mort.
Eh bien, la mort, c'est l'arrêt de l'orchestre. L'orchestre ne joue plus, et vous pouvez quand même laisser les musiciens ensemble. Ils se regardent, ils ont la mémoire de ce qui est vécu. C'est tout.
Oui, je ne vois pas très bien.
Je ne vois pas le problème, là.
Moi, je ne vois pas non plus, parce que les particules élémentaires restent là tout le temps. Que ça peut
justement,
faire.
Donc,
si que ce soit des désagrégations ou pas, elles restent là.
Alors, comment s'effectuent les choix de particules élémentaires une fois elles se sont désagrégées?
De toute manière, vous ne me prenez pas pour le bon Dieu, j'espère, que vous voulez pas. J'ai esquissé un certain nombre de choses que j'ai trouvées au cours de recherches, qui sont des recherches physiques. J'ai fait les rapprochements avec les problèmes de l'esprit, parce que, comme le disait le père, d'ailleurs, je pense que c'est le moment de le faire, il faut le faire, car sans aucun doute, je ne suis pas le seul à faire ça. Vous savez qu'il y a tout un mouvement, particulier aux États-Unis, qui travaille sur des questions où on ne veut plus séparer matière et esprit. Je crois qu'il faut le faire, mais ce n'est pas parce qu'on s'attaque à un problème comme celui-là que vous devez vous attendre à ce que je réponde à tous ces problèmes sur lesquels on se posera des questions encore pendant pas mal de temps.
Dieu, à propos, puisque vous avez parlé de bon Dieu, est-ce que vous croyez en Dieu?
Je me considère comme croyant, oui, certainement.
Oui, d'accord, merci bien.
Bien, madame.
Je reviens à votre exemple de l'orchestre où on parle beaucoup de la structure que sont les instruments. Mais enfin, je pense qu'on pourrait établir aussi la comparaison en disant que la structure que sont les instruments de l'orchestre, c'est l'instrument de la psyché de tous les individus qui interviennent. Dans la mesure où la musique qui a été composée, c'est un psychisme qui l'a composée, et dans la mesure où l'orchestre qui a été organisé, c'est le psychisme du chef d'orchestre avec la participation du psychisme des interprètes qui fait la réalisation au travers d'une structure de la musique.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais donc, on pourrait établir l'analogie entre le corps et le psychisme humain, dans la mesure où, justement, le corps serait le réceptacle d'informations que... Enfin, le corps reçoit l'information, c'est donc uniquement un instrument, comme une émission de télévision passe au travers d'un poste, si le poste ne marche pas, on ne voit rien, mais ça n'empêche pas l'émission d'exister.
C'est ça, mais ce qui reçoit l'information, ce n'est pas le corps, parce que le corps, je vois simplement que le corps, c'est un ensemble, c'est l'orchestre, justement. Mais comme je crois que vous l'aviez souligné, c'est en fait, qu'est-ce qui intervient là-dedans? C'est les psychés individuels des personnes qui ont composé la musique ou qui participent à l'orchestre.
Alors, à ce niveau, vous parlez de mémoire. Les gens qui sortent ont tous la mémoire de la musique entendue.
Oui.
Bon, on est toujours au niveau de la psyché.
Oui.
Et alors, est-ce que vous établissez donc des niveaux, en ce qui concerne cette mémoire, en fonction justement du niveau du psychisme de chacun des individus?
Oui, c'est-à-dire que c'est différent d'un individu à l'autre. Comme dans ce cas-là, c'est certainement le souvenir que peuvent avoir d'une symphonie qu'ils ont écoutée chacun des participants. Eh bien, il y a sans aucun doute, à l'échelle élémentaire, des différences qui jouent.
Alors,
ne serait-ce que parce que chacun a un passé qui est différent. Chacun écoute la symphonie en situant l'écoute de cette symphonie dans tout un ensemble psychique différent. Et c'est la même chose pour les particules. Elles ont un passé qui remonte très très loin dans le passé de l'univers et elles ont vécu des expériences différentes. Par conséquent, elles ne peuvent pas participer à une expérience vécue dans une personne, disons, et en sortir tous avec une mémoire uniformisée, disons, identique.
Et donc, cette notion d'information reçue, est-ce que vous l'amenez jusqu'à un niveau où il n'y aurait plus que la psyché et où la perception se passe, enfin peut éventuellement se passer donc de tout instrument matériel? Est-ce que vous l'envisagez à l'état pur, c'est-à-dire à la psyché à l'état pur, indépendant de tout instrument matériel?
Qu'est-ce que vous entendez par indépendant de tout instrument matériel?
Par exemple, au niveau de l'orchestre, on percevrait moins peut-être les instruments que le psychisme des individus qui jouent dans cet orchestre, en quelque sorte. Et pour déboucher d'ailleurs sur un psychisme qui pourrait traverser même vos vies antérieures, c'est-à-dire une puissance psychique, une mémorisation de votre vie qui dépasse le cadre de votre incarnation actuelle.
Disons, ça ce sont des problèmes un petit peu complexes. Je crois que dans les grandes lignes, c'est quelque chose qui est certainement concevable, étant donné que, encore une fois, tout se passe au niveau de l'élémentaire, et l'élémentaire est essentiellement psychisme. C'est essentiellement psychisme. C'est un espace spécial, et il est essentiellement psychisme.
Pierre Leroy, vous voulez ajouter quelque chose sur cet ensemble de considérations ou de questions, non?
Non, la seule chose que j'insiste encore, c'est le courage de M. Charron, qui nous lance dans une aventure scientifique absolument neuve. Il n'est pas le seul, dit-il avec modestie, mais tout de même, je n'ai pas trouvé encore dans les livres que j'ai lus autant de clarté et autant de précision sur ce problème très grave et très difficile, et qui, je crois, peut permettre à la science de déboucher sur quelque chose de tout à fait neuf. Les gnostiques de Princeton sont plus prudents que vous, jusqu'à présent. Ils n'ont rien publié, et ce n'est que par un intermédiaire, celui de Durruyer, qu'on arrive à connaître un peu ce qu'ils pensent, tandis que vous avez pris le taureau par les cornes, et puis vous y allez. Alors, moi, je crois que c'était très courageux, et encouragé d'une manière considérable, parce que c'est un très gros progrès.
Thank you.
C'était « L'esprit, cet inconnu », un numéro de dialogue de Roger Pilaudin avec le physicien et philosophe Pierre Charron et le biologiste Père Pierre Leroy, diffusé pour la première fois le 11 avril 1978.